Alors bonjour à tous. Je suis bien heureux d'être parmi vous. C'est le premier dimanche de juillet. On est au cœur de l'été, ça y est. Il fait beau. Et on vient ensemble pour entendre la parole de Dieu. Que demander de plus? Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre série de messages. Si j'ai bien compris, vous avez commencé il y a quelques semaines une série dans le livre d'Amos. Alors, Amos, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un livre assez obscur. Mais avant le début de cette série, vous connaissiez peut-être pas grand-chose de ce livre-là. Mais depuis quelques semaines, on découvre de message en message qui est ce prophète. On connaît son histoire un peu mieux. Et puis déjà, le pasteur Nguyen, je pense, a prêché sur le premier chapitre. Renato est venu, il a prêché ensuite la suite. Et il n'y a pas tellement longtemps, Clément, alors là, moi je viens et on continue. On va continuer avec le chapitre 3 d'Amos. Le texte qu'on a lu, c'est 15 versets. J'aimerais qu'on prie. On va prier et on va demander une fois de plus la bénédiction du Seigneur sur ce beau texte. On veut demander au Seigneur de nous aider à fixer nos regards sur lui pour apprendre à connaître sa parole, apprendre à connaître les vérités qu'il y a là. Et on prie que le Saint-Esprit puisse prendre cette parole et l'appliquer à nos cœurs. Alors, prions. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ta parole. Ta parole qui a traversé les siècles, qui nous est parvenue intacte. Une parole pour nous aujourd'hui. Une parole qui change la vie. Une parole qui nous éclaire sur qui tu es. Et une parole qui révèle Jésus-Christ. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui tu puisses vraiment attirer notre attention sur cette vérité, qu'elle puisse nous transformer pour que nous soyons des témoins de plus en plus et de mieux en mieux, et que nous puissions être les personnes que tu veux que nous soyons dans ce monde pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen. Alors Amos, on l'a vu dans les deux premiers chapitres de son livre, Amos a annoncé le jugement des adversaires d'Israël. Jugement de Dieu sur les adversaires d'Israël. Et on peut juste s'imaginer la scène. Israël qui se frotte les mains. Israël qui se dit super, c'est bien fait pour eux. Peut-être Israël pensait-il s'en tirer. Ben, évidemment, Dieu ne pourra jamais nous traiter comme les païens. Nous, on est son peuple. Et pourtant, Dieu est juste. Et on l'a vu quand on a étudié le livre de Jacques, la série qu'on avait juste avant. On a vu que Dieu ne fait jamais exception de personne. En lui, il n'y a aucune espèce de favoritisme. Alors Dieu va traiter son peuple selon sa justice. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Un Dieu saint. Alors, Amos annonce donc que Dieu va juger le peuple de Samarie, le royaume du Nord. Et il donne trois raisons pour justifier son jugement. Trois raisons. Et ces trois raisons vont être les trois points du message. C'est le plan que je vais suivre cet après-midi. Trois raisons pour le jugement. Et donc, la première raison, c'est l'élection. Amos évoque l'élection pour justifier le jugement de Dieu. C'est le fait que Dieu a choisi Israël, l'élection. Alors si vous êtes comme moi, on a peut-être du mal à voir pourquoi l'élection serait la cause du jugement divin. Mais on va s'arrêter un instant pour essayer de mieux comprendre cette vérité. L'élection. Dieu qui choisit son peuple. Israël connaît Dieu. Vous vous rendez compte? Connaître Dieu, ça c'est pas banal. C'est pas rien. Connaître Dieu. Le fait d'avoir une révélation particulière de Yahweh, cela confère à Israël des avantages extraordinaires. Imaginez, pour quelqu'un qui est loin de Dieu au départ, comme nous, être en relation avec le Seigneur de l'univers, on l'a chanté tout à l'heure. Savoir que ce Dieu nous aime, savoir ce que Dieu aime, ce qu'il déteste, connaître sa volonté, pouvoir entrer dans son intimité. Imaginez, quel cadeau extraordinaire, mes amis, un cadeau formidable de toutes les nations qui peuplent la surface de la terre. Israël a reçu des privilèges incomparables, incomparables. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, mentionne ces privilèges. Paul parle de l'Alliance, des Écritures. Paul parle des prophètes, de la loi, du Messie et Dieu qui a habité au milieu de son peuple, dans le temple. Des privilèges extraordinaires. Dieu a élu ce peuple-là. Israël. Et le livre du Deutéronome nous précise pourquoi Dieu a élu ce peuple. Pourquoi ? Et contrairement à ce qu'Israël pensait, ce n'était pas parce que ce peuple-là était supérieur aux autres. Bien le contraire. Bien le contraire. Je lis le texte de Deutéronome, chapitre 7, versets 7 à 8. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Deutéronome 7, versets 7 et 8. Voyez-vous la raison du choix d'Israël. La raison de notre élection, ce n'est jamais, jamais, jamais en nous-mêmes qu'on la trouve. Mais c'est toujours en Dieu. Rien en nous ne méritait qu'il nous choisisse. Et c'est la même chose pour le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Israël était un tout petit peuple sans force. Un peuple insignifiant. Dieu l'a choisi par pur amour, par pure bonté. La grâce de Dieu. Alors, question pour nous cet après-midi. Quelle valeur le fait d'avoir été choisi, quelle valeur cela a-t-il pour nous? Quelle place l'élection divine a-t-elle dans notre cœur cet après-midi? Est-ce que je compte ce privilège-là comme quelque chose de précieux? Ou est-ce que je me dis, bof, c'est normal, ça va de soi, évidemment. Moi, je dois le dire avec tristesse, mais il est bien possible parfois que le fait de connaître Dieu, le fait de se savoir aimé par Dieu, de lui appartenir, il est bien possible que parfois ça produise en nous un peu d'orgueil, un peu d'arrogance même, un petit sentiment quelque part de supériorité. Et au lieu d'être humble à cause des privilèges qu'on a reçus, on arrive à s'imaginer qu'on est un peu meilleur que les autres. On pense qu'on n'a plus besoin de respecter Dieu. On se croit tout permis, puisque Dieu nous aime. Et c'est ce qui, semble-t-il, s'était produit ici, dans Amos chapitre 3. Un peuple qui doit tout à Dieu, un peuple qui commence à le prendre comme un dû, prendre Dieu pour acquis. Avez-vous cela? C'est triste. Et à partir du verset 3, Amos va prendre plusieurs images, plusieurs illustrations, si on veut dire, pour expliquer ce qui arrive. Et pour expliquer que ce qui se passe là, dans le chapitre, c'est une conséquence du mauvais comportement de son peuple. Et là, Amos va multiplier les questions rhétoriques. Vous savez, ce genre de questions où on connaît les réponses d'avance. Les réponses sont évidentes. Même le royaume du Nord est capable de les trouver, les réponses. Et en fait, on voit, on remarque que c'est une histoire de cause à effet. Par exemple, tu lances une balle vers le haut, elle va redescendre. La loi de la gravité. Tu souffles dans un ballon de baudruche et il va se gonfler. Une cause, un effet. Et voici quelques exemples qu'Amos prend des versets 3 à 8 pour nous expliquer cela. Par exemple, il parle de marcher ensemble parce qu'on s'est mis d'accord. Normalement, si tu veux faire un trajet quelque part avec une personne, tu dois te mettre d'accord, on va dans cette direction-là. Voilà. Ou alors, il parle d'un lion qui va rugir parce qu'il y a une proie dans les parages. Il parle d'un oiseau qui va tomber dans un filet parce qu'il y a un piège qui a été installé. Il parle de personnes qui ont été apeurées, terrorisées parce que le son du cor a été entendu dans une ville. Et il parle aussi de quelqu'un qui va prophétiser parce que Dieu a rugi. Voyez-vous cela? Tous ces exemples, Amos les a donnés pour dire au peuple de Samarie que ce qui va se passer, c'est tout simplement la conséquence de ce que le peuple a fait et de ce qu'il a continué de faire après maintes et maintes et maintes avertissements. Dieu qui avertit son peuple encore et encore et encore et encore. L'idolâtrie, l'exploitation des pauvres, le mépris de la parole de Dieu, la violation de l'Alliance, tout cela a entraîné le juste jugement d'un Dieu qui est saint et pur et sans faute. Alors le principe qu'il faut retenir ici, c'est celui-ci. Dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle une loi de causalité. On récolte ce que l'on a semé. Vous connaissez le proverbe, certainement. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Voyez-vous, nos attitudes, nos pensées, nos paroles, nos actions vont avoir des conséquences. Dieu nous a créés comme des êtres responsables devant lui. Chaque être humain a des comptes à rendre devant celui qui l'a créé. Et c'est vrai ça pour nous. Alors, Israël ici. Israël a peut-être pensé que si Dieu ne punissait pas tout de suite, que ça lui passerait finalement. Voyez? Hein? Les enfants sont un peu comme ça. Vous avez peut-être remarqué. Vous leur dites, non, touche pas. Et alors là, ils touchent. Et s'il ne se passe rien dans les quelques instants qui suivent, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Eh ben, ils continuent! Ils continuent, la main dans le pot de bonbons, et ils continuent, et les doigts dans la tarte aux fraises, et ils continuent. Voyez-vous cela? Le royaume du Nord pensait peut-être que Dieu avait oublié son alliance, ou peut-être que quelque part Dieu avait changé d'idée. Israël avait peut-être interprété même la patience de Dieu comme une sorte d'approbation, ou peut-être comme de la faiblesse de la part de l'Éternel. Et Israël a continué à pécher. Mais on peut se poser la question, pourquoi cette patience de Dieu? Pourquoi Dieu est-il patient? L'apôtre Pierre nous explique la raison de la patience de Dieu. Dans sa deuxième lettre, Pierre dit que Dieu attend parce que il veut sauver. Il veut que tous parviennent à la repentance. Voilà la raison de la patience de Dieu. Dieu veut vraiment que l'on change. Dieu le veut de tout son cœur. Mais quand on résiste et quand sa patience a atteint ses limites, eh bien Dieu est prêt à punir, à corriger, à discipliner pour que l'on revienne à lui. Et vous cela? Voilà pourquoi ici Dieu annonce le jugement. Dieu désire que ses avertissements amènent son peuple à la repentance. Il veut leur laisser encore une chance de réagir. Et c'est ça qu'il fait avec nous aussi. Question pour nous. Croyons-nous, nous aussi, cet après-midi, que la patience de Dieu est notre salut? Pensez à la patience que Dieu a eu envers vous tout le temps où vous étiez encore ignorant de lui. Pensez à cela. Pensez à sa patience encore aujourd'hui dans votre vie, à toutes les fois que vous retombez et que vous vous relevez et que vous retombez encore. La patience de Dieu. Nous croyons que la patience de Dieu, c'est notre salut. Dieu est patient envers nous. Au chapitre 3, le prophète Amos débute donc par une première accusation contre Israël. Tu as méprisé mon alliance. Je t'ai choisi, je t'ai couvert de bénédictions, mais tu n'en as eu aucun compte. Tu n'en as pas tenu compte. L'élection. Dieu qui nous choisit. Ça, c'est la première raison du jugement de Dieu ici. Deuxième raison. Le peuple est jugé parce que Dieu a parlé. Le peuple est jugé parce que Dieu a parlé. Dieu a averti par la bouche de son prophète. Dieu a rugi, pour reprendre l'image d'Amos 3. Mais Israël n'a pas écouté. Israël n'a pas écouté. Israël n'a pas pris à cœur les avertissements du Seigneur. Alors, il faut peut-être, à ce stade-ci du message, dire un mot ou deux au sujet d'Amos, le prophète. Il faut dire que le royaume du Nord, Samarie, ne connaît pas très bien Amos, en fait. On s'imagine même les Israélites en train de se poser la question les uns aux autres quand ils voient Amos débarquer à Samarie. Ils doivent se dire, mais c'est qui ce fermier qui vient nous reprendre? C'est qui cet étranger qui vient du royaume de Juda pour nous corriger? Qui c'est ce gars-là? Amos, c'est l'homme qui a été choisi par Dieu. L'homme qui s'est mis d'accord avec le Seigneur. Amos, c'est l'homme qui marche avec Yahweh. Et il y a un contraste ici. Quand tout le peuple est devenu incapable de comprendre ce que Dieu veut, quand la confusion règne parmi les Israélites, lui, Amos, il voit clair. Lui, il sait reconnaître la voix de l'Éternel. Mes amis, on ne peut tomber d'accord avec Dieu que si on a reconnu ses péchés. On ne peut se mettre d'accord avec Dieu que si on s'est repenti. On ne peut s'être entendu avec le Seigneur que si on a accueilli sa parole avec foi. Voyez-vous cela? Amos a fait cela. Notre chapitre ici nous montre que parce qu'il s'est mis d'accord avec Dieu, parce qu'il marche dans son intimité, parce qu'il a entendu sa voix, Amos a une responsabilité maintenant. Il doit avertir le peuple. Un peuple qui ne marche plus avec Dieu. Un peuple qui n'entend plus la voix de son Seigneur. Amos va être l'écho du rugissement de Dieu. Les Israélites sont complètement déboussolés par rapport à Dieu. Le décalage entre eux et Dieu ne peut pas être plus grand. Parce que voyez-vous, si vous aviez demandé aux Israélites, eux, comment ils trouvent qu'ils sont, comment ils s'évaluent, alors les Israélites, eux, ils croyaient que tout allait bien, tout est nickel, l'économie est bonne, c'est vrai, à l'époque, le royaume est prospère, et c'est politiquement stable, et puis les habitants de Samarie pratiquent leur religion fidèlement, ils se réunissent, et selon eux, tout est bien, en apparence. Mais mes amis, quand il n'y a plus personne parmi le peuple de Dieu qui est en mesure d'entendre la voix de Dieu, selon Dieu et pour Dieu, tout ne va pas bien. Quand on n'est plus capable d'entendre sa voix, tout ne va pas bien malgré les apparences. Et c'est dans ce genre de contexte que Dieu suscite des hommes. Et parfois, ceux que Dieu suscite, on ne s'attend pas du tout à les voir là. On est surpris du choix de Dieu, du genre de Dieu, de personne que Dieu peut choisir. Et c'est le cas pour Amos ici. Dieu, à l'époque d'Amos, a suscité un paysan du royaume du Sud, du royaume de Juda. C'est pas étonnant ça pour vous? C'est surprenant. Et ça m'amène à penser à nous, à notre époque. Réfléchissons à notre situation à nous. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que notre époque, elle a aussi besoin d'entendre la voix de Dieu. Vous êtes d'accord? On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais il faut se poser la question. Quelle personne Dieu va-t-il susciter pour faire entendre son rugissement à son peuple aujourd'hui dans notre contexte? Quelle personne? un frère peut-être, une sœur, je ne sais pas. Mais ça va être certainement une personne qui s'est d'abord entendue avec Dieu. Ça va être une personne qui s'est mise d'accord avec Dieu, une personne qui marche dans l'intimité de son Seigneur. Ça va être quelqu'un qu'on attend peut-être pas là du tout, un chrétien ordinaire, mais rempli de la grâce de l'Évangile, pour que le peuple de Dieu entende la voix de Dieu. Alors Amos ici va parler au nom de Dieu, pour dire à son peuple ce qui se passe vraiment. Il va poser le bon diagnostic. Et c'est important de savoir ce qui se passe vraiment. On peut avoir parfois des appréciations qui ne sont pas justes. On a besoin que ce soit Dieu qui nous dise « voilà ce que je pense vraiment ». Et c'est ce qui se passe dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse où Jésus envoie des lettres à ses églises pour leur dire « voilà ce que je pense vraiment, voilà ce que je vois dans l'Assemblée ». Là où la plupart des églises ne savaient pas vraiment ce qui se passait d'un point de vue spirituel. Alors, tout ce qu'on vient de voir ici nous amène à nous poser la question, évidemment. Est-ce que moi, je marche avec Dieu en ce moment? Est-ce que je marche avec Dieu vraiment? Est-ce que ma relation avec lui, elle est intime au point où j'arrive à entendre sa voix? Jésus a dit « mes brebis entendent ma voix ». Est-ce que je suis intime au point où j'arrive encore à discerner ce que Dieu veut dire à son peuple? Est-ce que je suis rempli de sa parole cet après-midi ou au contraire, est-ce que je suis en train de contester avec Dieu comme le peuple de Samarie l'a fait? Autant de questions qu'on doit se poser. Résumons rapidement. Alors, on a dit qu'Israël est jugé. Premièrement, parce qu'il a été élu et il n'en a fait aucun cas. Deuxièmement, parce que Dieu a envoyé Amos, le prophète, pour prévenir, mais il ne l'a pas écouté. Mais il y a une troisième raison. Une troisième raison ici. Israël est jugé à cause de son mauvais témoignage. Verset 9. Jugé parce que, au lieu d'être une lumière pour les nations, comme le peuple d'Israël avait été appelé à l'être, Israël est devenu un sujet de scandale. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, a écrit à cet égard, il a dit « Tous les jours, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. » Le péché d'Israël est tel que même les païens en sont choqués. Vous rendez compte? Un peuple qui connaît Dieu, et son péché est tel que même les païens qui ne connaissent pas Dieu sont choqués. Un témoignage tel que le nom de Dieu est tourné en dérision partout. Alors posons-nous la question chacun personnellement. Quel témoignage est-ce que j'ai, moi, au travail? Quel témoignage dans ma famille? Quel témoignage dans mon quartier? Oh, que Dieu nous aide à être remplis de Jésus à un tel point que notre vie va être un témoignage pour ceux qui vont nous côtoyer. Un témoignage qui va donner envie aux autres de connaître Jésus. Alors, posons-nous la question également par rapport à l'Église, excuse-moi. Quel témoignage notre Église a-t-elle dans la ville? Vous avez déjà réfléchi à ça? Le témoignage de l'Église dans votre ville. Comment les habitants de Saint-Maur vous voient-ils? Qu'est-ce qu'ils disent à votre sujet? Le témoignage de l'Église est important dans le monde. Pensez à ce qui se passe dans certaines églises actuellement. Des scandales de pédophilie, des scandales financiers, des conflits, des divisions. Quelle tristesse! C'est triste, c'est malheureux. Et là, on se pose la question, est-ce que Dieu va laisser la gloire de son Fils être ternie? Toujours. Moi, je réponds non, c'est impossible. On vit actuellement, en ce moment, dans les temps de la patience de Dieu. Mais le jugement de Dieu vient, mes amis. Le Dieu de justice, le Dieu de sainteté rugit aujourd'hui, comme au temps d'Amos. Et peut-être que comme Israël, nous, on se dit, ah, c'est pour les autres. Hein, Israël disait, c'est pour les nations d'alentour. Dieu va juger les nations d'alentour. Mais j'aimerais vous faire remarquer ceci. Le jugement commence toujours par la maison de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Le jugement commence par la maison de Dieu. Quand Dieu agit et veut agir profondément dans un endroit particulier, savez ce qu'il fait ? Il commence toujours par entrer en contestation avec son peuple. Il plaide avec ceux qui lui appartiennent d'abord. Et je vous invite à étudier l'histoire des grands réveils spirituels dans l'histoire de l'Église un peu partout dans le monde. Les grands réveils en Angleterre, au Pays de Galles, en Nouvelle-Angleterre, en Irlande, dans les Nouvelles-Hébrides, là où Dieu a agi profondément, il y a eu des conversions, la société a été transformée depuis sa base par une action puissante du Saint-Esprit. Étudiez ces histoires de réveil et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, Dieu commence par convaincre son peuple de péché. À chaque fois, on voit des chrétiens qui tombent à genoux et qui se repentent, des chrétiens qui retrouvent la crainte de Dieu, des chrétiens qui s'humilient devant Dieu, qui confessent leurs fautes, qui recommencent à mettre l'Évangile au centre et Dieu renouvelle son peuple. Et ensuite, Dieu utilise un peuple renouvelé pour toucher ceux qui sont en dehors de l'Église et pour faire répandre l'Évangile. Et on a vu l'histoire des grands réveils, des personnes, des tas de personnes qui se convertissaient. Mais vous savez, ça commence toujours par le peuple de Dieu qui prend conscience de ses péchés et qui s'humilie et qui se tourne vers le Seigneur. Bon, prions que Dieu nous visite de cette manière dans sa grâce. Prions pour ici l'Église de Saint-Maur, pour l'Église en général en France, pour que Dieu fasse cela. Alors revenons à notre texte. Au temps d'Amos, Dieu a rugi. Et Dieu rugit toujours, à toutes les époques de l'histoire. Exactement comme le lion de Juda a rugi au 1er siècle devant l'église de Laodicée, la dernière des 7 églises de l'Apocalypse, une église tiède. Voyez-vous, notre Dieu qui est plein de douceur, notre Dieu qui est plein de tendresse, c'est aussi un Dieu saint. Il va juger son Église à notre époque et dans notre génération également. Et pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu aime l'Église, parce que Dieu veut que son Église soit fervente, parce que Dieu veut qu'elle soit pure, consacrée, qu'elle soit pleine de beaux fruits. Voilà pourquoi Dieu agit comme cela. Dans Amos 3, le jugement qui est annoncé est imminent. Imminent. Au verset 11, Amos annonce qu'Israël va tomber aux mains de l'ennemi. Et ça, c'est arrivé en l'an 722 avant Jésus-Christ. De leur palais d'ivoire, les leaders d'Israël ont été pris, ils ont été amenés en Assyrie et leur exil a duré 70 ans. Et qu'est-ce qui est resté d'Israël? Ben, le texte nous le dit. Un bout d'oreille et une jambe. Un bout d'oreille et une jambe. Terrible. Comme une bête qui a été arrachée du troupeau et que le lion a dévoré, mais il reste plus qu'un bout d'oreille et une jambe. C'est terrible. Mais voyez-vous la grâce du Seigneur au beau milieu de ces paroles qui sont dures? Voyez-vous la grâce? La grâce, c'est que Dieu va se garder un reste. Parce que quand Dieu juge son peuple, il y a un tri qui s'opère, il y en a qui vont partir, mais Dieu se réserve toujours un reste. Et ce message, c'est pour nous également. Un appel à la vigilance, un appel à rester attaché au Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, les 7 lettres de Jésus envoyées aux églises, vous avez déjà lu cela? Très bien. Alors, quand vous lisez ces lettres-là, nous, on a étudié ces textes-là dernièrement dans notre groupe de maison. On se pose la question, combien de ces assemblées existent encore aujourd'hui en Asie mineure, qui est la Turquie actuelle? Vous savez combien de petits groupes existent aujourd'hui? Très, très peu. On parle de un ou deux ou trois petits groupes qui existent dans ces sept églises-là, qui étaient vibrantes au début de l'histoire de l'Église. Ça nous fait réfléchir. Voyez-vous, si l'Église ne s'attache pas au Seigneur, le danger est imminent. Le chandelier peut être enlevé. Et on peut se poser la question, combien de nos églises ici en France aujourd'hui se sont un peu endormies? Peut-être comme Israël à l'époque d'Amos. Combien? J'ai pas de statistiques pour la France, mais j'ai des statistiques pour les États-Unis. Il y a un sondage Gallup qui a été mené dernièrement aux États-Unis et qui rapporte qu'il y a très peu de différence actuellement entre le comportement des chrétiens et des non-chrétiens. Très peu de différence. Et parmi les baptistes du Sud, seulement un chrétien sur dix serait prêt à souffrir pour sa foi. Un chrétien sur dix. À partir du moment où on dit aux chrétiens, c'est possible que tu sois persécuté, que tu souffres, neuf chrétiens sur dix disent, non, je peux pas accepter ça. Neuf chrétiens sur dix qui refusent de devoir souffrir pour leur maître. Mes amis, c'est facile de glisser. Un texte comme Amos 3 doit nous servir d'avertissement aujourd'hui. Dieu, dans sa miséricorde, nous prévient. C'est dans son amour qu'il nous corrige. C'est pour nous sanctifier. C'est pour nous utiliser. Et notre texte cet après-midi nous invite à plusieurs choses. Premièrement, à se mettre d'accord avec celui qui nous a choisis. Êtes-vous d'accord avec celui qui vous a choisi? Vous êtes-vous mis d'accord avec celui qui vous a choisi? Se mettre d'accord avec celui qui nous a choisis. Amos 3 nous invite aussi à marcher avec lui. Et à se mettre à nouveau à son écoute. Écoutez Dieu. Notre texte cet après-midi nous rappelle que notre Dieu d'amour va aussi juger aujourd'hui. Mais que ce terrible jugement, Jésus l'a pris complètement sur lui-même. On peut en être délivré. La bonne nouvelle d'Amos 3, c'est qu'on peut être délivré du jugement. Amos 3, en fait, nous oriente vers le Christ. Et c'est par lui seul qu'on peut échapper à la colère de Dieu. Jésus a dit, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Quelle promesse pour nous aujourd'hui. Quelle sécurité. Je vais conclure maintenant. J'aimerais qu'on prenne un petit moment. Un petit moment pour méditer en silence sur quatre questions que je vais vous laisser. Je vais vous présenter les questions, vous allez réfléchir en silence et après, ceux qui veulent s'exprimer, on priera tous ensemble et je fermerai ce moment de prière. Mais pour l'instant, en silence, réfléchissez à ces quatre questions. La première, est-ce que tu marches avec Dieu en ce moment? Marches-tu avec Dieu en ce moment? Deuxième question, est-ce que tu t'es mis d'accord avec Dieu concernant tes péchés, concernant tes priorités, concernant sa volonté? Est-ce que tu t'es mis d'accord avec Dieu? Troisièmement, as-tu entendu et entends-tu au quotidien sa voix te parler? Est-ce que tu entends sa voix te parler dans sa parole? Est-ce que tu entends Dieu te parler pendant les moments de prière que tu as avec lui? Entends-tu sa voix? Et quatrièmement, comme Amos, est-ce que tu oses parler pour Dieu malgré l'hostilité que tu pourrais rencontrer autour de toi? Amos a rencontré beaucoup d'hostilité. Personne ne voulait l'écouter. Est-ce que toi, tu oses parler pour Dieu malgré l'hostilité que tu rencontres? Alors, prenons quelques instants en silence Réfléchissons à ces questions. Marcher avec Dieu, se mettre d'accord avec lui, entendre sa voix, parler pour lui malgré l'opposition. Prenons quelques instants de silence. Je vais inviter maintenant ceux qui veulent prier à haute voix de le faire librement. Si vous avez à cœur de parler à Dieu dans la prière maintenant pour répondre au message que vous venez d'entendre, n'hésitez pas. Et moi, je vais fermer ce moment-là dans la prière. Alors, que Dieu dirige et priez comme Dieu vous dirige, s'il vous plaît. Eh bien, Seigneur, comme Amos, nous voulons nous mettre d'accord avec toi. Seigneur, quand tu scrutes nos cœurs, quand tu regardes ce qu'il y a dans nos cœurs, nous voulons être capables de dire, oui, Seigneur, tu as raison. Tu as raison, dans ce domaine-ci, dans ce domaine-là, je ne suis pas comme je devrais être. J'ai besoin de changer. Et Seigneur, nous voulons nous entendre avec toi, nous mettre d'accord. Et nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons être des intimes de Dieu, passer du temps dans ta présence, de sorte que si tu veux nous parler, nous sommes capables d'entendre. Si tu veux parler à ton peuple, nous sommes prêts à être un canal pour faire entendre la voix de Dieu au peuple de Dieu. Et Seigneur, nous ne voulons pas craindre de dire les choses que toi tu nous dis. Seigneur, nous ne voulons pas craindre, même si nos paroles ne sont pas toujours populaires ou faciles à entendre. Nous voulons être, en quelque sorte, comme Amos, nous voulons être fidèles à ta parole. Seigneur, nous voulons que tu sondes nos églises, notre église au Val d'Europe, là où je suis, mais l'église de Saint-Maur également. Nous voulons pouvoir être lucides par rapport à ce qui se passe et être enseigné par toi constamment. Parce que Seigneur, lorsque tu parles à ton peuple, tu nous annonces des paroles de grâce, de libération. Tu nous as donné la bonne nouvelle. Jésus a porté le jugement pour nous. Seigneur, celui qui croit en toi, il n'y a plus de condamnation. Alors nous te remercions et nous voulons venir rapidement dans tes bras, Seigneur Jésus, et que tu nous portes et que tu nous délivres. Dans tous les domaines où nous avons besoin d'être délivrés, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.